Prions, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps où nous pouvons méditer ta parole. Seigneur, aujourd'hui, tu as un message à nous faire passer encore par l'intermédiaire de ton serviteur. Seigneur, ouvre nos cœurs. Ouvre nos cœurs et que ton esprit vraiment dispose de chacun de nous afin que nous puissions recevoir, répondre aussi au message que tu veux nous transmettre aujourd'hui. Seigneur, ta parole est la vérité. Te prions vraiment que cette vérité puisse nous parler au plus profond de nous-mêmes aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien, bonjour à tous. Je m'attendais un peu à ce qu'il n'y ait pas grand monde, parce que c'est les vacances, mais finalement, les gens viennent en vacances ici, c'est bien aussi. Voilà. Alors ce matin, je vous propose de lire un texte qui se trouve dans le deuxième livre des rois, deuxième livre des rois, au chapitre 5, et nous allons lire les 17 premiers versets de ce chapitre. Deux rois, chapitre 5, versets 1 à 17. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur. Car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas. Je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi, Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de la lèpre. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de la lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre ? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne donc me voir, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant, « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. » Les fleuves de Damas, l'Amana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, « Maître, si ce prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il a dit s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. » Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu, c'est-à-dire vers Élisée, avec toute son escorte. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que deux mulets peuvent emporter, car dorénavant ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Donc on va s'arrêter là pour notre lecture de ce matin. Alors, quelques mots de contexte. Nous sommes au 9e siècle à peu près avant Jésus-Christ. Et à l'époque, Israël, du moins le royaume d'Israël au nord, est sous la domination syrienne. La Syrie, c'était un empire puissant de l'époque. Mais le royaume d'Israël était encore considéré comme un royaume à part entière, puisqu'il y avait encore un roi qui était là. Et en l'occurrence, le roi s'appelait le roi Joram ou Yoram. Et dans notre lecture de ce matin, il est question donc d'un personnage du nom de Naaman. Naaman est, on le lit dans la Bible, est le général en chef de l'armée du roi de Syrie. Donc c'est un personnage important, avec un rang très élevé, mais il a un problème. Il a une partie de son corps qui commence à être rongée par une maladie, la lèpre. On voit ça au verset 11. Et la lèpre avait des conséquences terribles sur le plan social, notamment. Et Naaman savait qu'à terme, sa carrière allait être ruinée. Puisque dans le contexte oriental ancien, le destin des lépreux, ça signifiait l'exclusion de toute activité sociale, y compris activité religieuse. Et ça me fait penser notamment à certaines maladies comme le sida, par exemple, qui est apparu au début des années 80, me semble-t-il. Pendant plus d'une décennie, les sidéens, comme on les appelle, les malades du sida, étaient vraiment considérés comme des gens, j'allais dire, des pestiférés. Ils souffraient de ce fait d'être exclu de la société. Donc on peut comprendre que Naaman, dans cette perspective, cherche une solution. Lui, le général d'armée. Et Naaman, qui est donc dans une situation dramatique, il va connaître un destin extraordinaire. Extraordinaire. Grâce à une petite esclave, une jeune fille ramenée par les Syriens lors d'un raid en Israël, lors d'une razzia en Israël, eh bien, cette petite fille avait été enlevée aux siens et elle était devenue l'esclave de la femme de Naaman. Et le rôle de cette petite fille va être déterminant. Et on va voir ensemble, justement, les étapes qui ont conduit Naaman à vivre une expérience merveilleuse, celle de la purification. Et en considérant notre texte, eh bien, je vous propose ensemble de voir ensemble un certain nombre de conditions pour obtenir la purification. Et j'en ai noté quatre conditions. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, d'après le texte, je me suis permis d'en discerner quatre. La première condition, c'est d'abord d'être attentif aux conseils d'autrui. Alors bientôt, la maladie va se propager dans tout le corps de Naaman. Il le sait. Et il le sait que ni sa fortune, ni sa puissance, ni sa gloire ne lui seront d'aucun secours. Et la petite esclave est au courant de la situation de son maître, et sa réaction, elle est touchante. Déjà, malgré son jeune âge, elle connaît très bien l'implication d'une telle maladie. Elle compatit sincèrement, au point de suggérer à sa maîtresse de demander à son mari d'aller auprès du prophète d'Israël, en l'occurrence donc Élisée. C'est touchant parce que malgré le fait qu'elle a été arrachée de force à son foyer, à sa famille, à ses parents, ben elle porte un intérêt sincère à Naaman qui est pourtant un peu le représentant d'un pays qui opprime son peuple. Dans tous les cas, Naaman n'est pas insensible à la suggestion de son esclave et il décide il ne va pas négliger cette piste-là, mais il tient compte des conseils et accepte d'aller consulter le prophète. Il y a un passage biblique qui dit dans Proverbes chapitre 12, verset 15, que la voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Et là, Naaman, il a écouté les conseils de la petite fille. Bien entendu, il est important de savoir aussi discerner les bons et les mauvais conseils, n'est-ce pas? Mais il est important de ne pas faire fi des conseils des personnes qui nous sont proches. Bon, là, il s'agit d'une esclave, mais elle faisait déjà partie de la famille, quelque part, de Naaman. Et voilà, ne soyons pas tout de suite, à cause de notre orgueil, fermés à tout conseil, en disant non. Et là, Naaman, quand même, écoute les conseils. Il aurait pu dire, ah, Israël, non, Israël, c'est un pays qu'on a conquis, un pays sous notre domination, je ne vais pas aller demander à être guéri par quelqu'un qui est d'un pays qui est sous notre domination, n'est-ce pas? Non, il a écouté les conseils. Alors ça me fait penser à une situation difficile en ce moment dans le monde, et notamment à Madagascar. Il y a actuellement une grave épidémie de peste là-bas. Hein, si vous écoutez les informations, notamment les informations internationales. Bon. Alors, il se trouve que c'est une maladie, semble-t-il, qui se soigne assez facilement, puisque c'est seulement à coup d'antibiotiques, mais à condition que les malades acceptent, dès les premiers symptômes, d'aller vers les dispensaires pour se faire soigner. Et en ce moment, les autorités multiplient les communications, les conseils d'hygiène, etc. Et conseillent notamment d'aller, dès qu'il y a un peu de fièvre, d'aller voir le dispensaire, voir si c'est un début de peste. Mais hélas, peu acceptent de voir les médecins, et c'est ça vraiment le problème. C'est pour ça que l'épidémie se progresse. Parce qu'ils ont voilà, des conseils des ancêtres, etc., en disant non, il faut passer par... comment dire, par de l'occultisme, etc. Et donc, ils ne vont pas. Ils veulent aussi essayer de s'en sortir soi-même par des petits gris-gris, etc. Surtout dans les contrées reculées. Mais aussi à cause du fait que la peste est considérée comme une maladie honteuse. Et donc, ils n'y vont pas parce qu'ils ont peur d'être... ils ont honte. Hein. Et aujourd'hui, la situation n'est pas encore réglée, hélas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en revenant à notre général Naaman, lui a rempli une première condition vers la voie de la guérison, c'est-à-dire être attentif aux conseils, écouter les conseils d'autrui. C'est une condition importante, mais ce n'est pas encore une condition suffisante. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième condition, c'est mettre son orgueil de côté. Mettre son orgueil de côté. Une fois en Israël, Naaman va un peu être embêté parce que rien ne va se passer comme il l'avait imaginé. D'abord, le prophète Élisée ne prend pas la peine de se présenter en chair et en os devant lui. Et au lieu de venir en personne, donc il délègue un envoyé, un messager, pour lui donner ses directives. Alors Naaman, lui, ce grand général, le chef des armées de Syrie, a dû considérer cela comme un affront à sa dignité. Il avait déjà pensé qu'il va être... reçu en grande pompe, bon, un petit messager, on l'envoie. Et en plus, donc, par l'entremise de son messager, eh bien, il y a juste un message, un geste simple à accomplir, se tremper sept fois, dans les eaux du Jourdain. Alors, Naaman avait certainement déjà imaginé dans sa tête comment se passerait sa guérison. Une cérémonie, un rituel, une imposition de main sur la partie malade, une invocation du Dieu d'Israël, une guérison miraculeuse devant tout le monde. Voilà, il avait en fait déjà élaboré son propre plan de guérison. Et parfois, on est un peu comme ça quand on va chez le médecin. On pense qu'on va avoir un traitement, des antibiotiques à droite, des machins à gauche, puis le médecin dit non, dormez plutôt la nuit, ça ira. Alors, plusieurs questions viennent alors à l'esprit du grand général. Est-ce que j'ai fait ce voyage si long juste pour prendre un bain? Il y a d'autres fleuves en Syrie avec des eaux bien plus propres et bien plus claires, parce que le Jourdain, en fait, est réputé pour avoir des eaux plutôt boueuses. Et ces fleuves en Syrie ne sont-ils pas plus appropriés? Autre question, comment un simple bain pourrait me guérir alors que les meilleurs spécialistes que j'ai vus en Syrie ne sont pas arrivés à me guérir? Et puis aussi, une autre question embêtante, en me voyant dévêtu, j'aurais l'air ridicule devant mes serviteurs. Je ne vais pas enlever mes habits devant eux et me mettre dans juste pour prendre un bain. Ah, il se dit certainement, il se pose la question, ouais, voilà, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué, hein? Alors, au lieu d'être l'objet d'une cérémonie particulière, où Naaman serait finalement passif, hein, eh bien, Élisée lui demande d'être actif, c'est-à-dire de prendre sa part de responsabilité en allant lui-même accomplir ce geste simple d'aller se tremper dans les eaux du Jourdain. Alors, il arrivera peut-être un jour de demander secours à Dieu. Mais peut-être qu'au lieu de répondre instantanément à notre requête, il nous demandera d'abord des pas de foi qui nous engagent, des gestes qui engagent notre volonté et qui feront dépasser notre orgueil. Je pense par exemple à des personnes qui souhaitent vraiment être pardonnées de leurs péchés. Seigneur, je te demande pardon, j'ai vraiment fait des bêtises, etc. Pardonne-moi s'il te plaît. Prière légitime. Et le Seigneur pourra nous dire, pardonne d'abord à ceux qui t'ont offensé. Pas si simple finalement, hein. Mais ce sera une occasion de mettre notre orgueil de côté. Hein, vous savez combien de situations sont bloquées dans les familles ou dans les églises à cause de notre ego, à cause de notre orgueil qui nous empêche d'avancer. Mais revenons à notre général. Déjà, il n'est pas accueilli en fonction de son rang, mais en plus, on lui demande de se laver dans les eaux du Jourdain. Alors là, c'en est trop pour lui. Orgueil piqué à vif, furieux, il s'en va. Et il fait demi-tour et il rentre dans son pays. Et en voyant ça, ses serviteurs vont essayer de le convaincre au verset 13 et verset 14 qu'on a lu tout à l'heure. Et Naaman, finalement, se trouve devant un choix. Soit il méprise les directives d'Élisée, il restera prisonnier de son orgueil. Soit il fait confiance en la parole du prophète en lui obéissant. Soit il fait confiance, c'est-à-dire qu'il sera assez humble pour reconnaître son incapacité à s'en sortir par ses propres moyens. Il va descendre de son piédestal pour se rabaisser et accepter de se baigner dans une eau boueuse devant tous ses serviteurs. Là, il y a un dilemme. Où est-ce que je place mon orgueil maintenant? Voilà, petit dessin humoristique, hein. Parfois, il faut accepter de tout lâcher pour s'en sortir. Une main tendue pour qu'il soit sauvé. Et l'orgueil qui est tellement lourd, il regarde à son orgueil en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Donc Naaman, il est devant un choix. Mais Naaman, une fois de plus, tient compte des conseils. Et il commence à mettre son orgueil petit à petit de côté. Il avait déjà tenu compte des conseils de la petite esclave. Maintenant, il tient encore compte des conseils de ses serviteurs. Il commence à mettre de côté son orgueil. Une deuxième étape a été franchie. Mais encore deux pas à franchir. Il y a quand même encore le pas de l'obéissance sans réserve maintenant à la parole de Dieu. Dieu demande à Naaman, par l'entremise du prophète, de se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Alors, selon les interprétations des spécialistes de la Bible, le fait de se laver 7 fois indiquerait un geste accompli dans la plénitude, puisque le chiffre 7 est considéré, vous savez, comme un chiffre, un symbole de la perfection. Bon, on ne va pas commenter plus que cela la signification de ce septuple bain, mais en tout cas, ce n'est pas un rituel magique. Et le fait de répéter 7 fois ce geste, eh bien, finalement, pouvait être une occasion pour Naaman de montrer vraiment son obéissance envers Dieu. Il aurait pu, voilà, se tremper une fois, paf, regarder son truc, non, ça va pas encore, 2 fois. Ah, ça va, ben je peux sortir. Sans se tremper 7 fois. Non, il n'a pas fait ça. Il a suivi à la lettre. Il a obéi à la lettre les ordres de Dieu. Quand Dieu nous demande d'obéir, il attend que nous obéissions sans réserve. Pas de manière partielle. Pas de compromis. Et dans la Bible, nous pouvons d'ailleurs voir des exemples d'obéissance. Et je citerai le seul exemple d'Abraham. Vous connaissez peut-être son histoire. Dans Genèse 12, Dieu lui demande de quitter son pays, de partir dans un pays qu'il indiquera. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il se leva et il partit. Il habitait en Mésopotamie, là-bas, dans le pays d'Ur, et donc il a fait cap plein ouest. Ensuite, Dieu a aussi, dans Genèse 22, il a aussi mis sa foi à l'épreuve, lui demandant de sacrifier son fils Isaac, alors que c'était le fils de la promesse. Que faire? À chaque fois, Abraham a obéi sans broncher, sans protester. Et nous, alors? On peut nous retourner la question, comment réagissons-nous quand Dieu nous demande une action précise pour accomplir sa volonté? Alors, il est certain que l'obéissance a toujours un coût. Pour Abraham, c'était de quitter son pays. Pas facile. Mais aussi la perspective de perdre son fils. Pour Naaman, il fallait sacrifier son orgueil de chef et apprendre à s'humilier. Dans le Nouveau Testament, il y a un passage où Jésus demande à un jeune homme riche qui voulait recevoir la vie éternelle de vendre toutes ses richesses pour recevoir effectivement cette vie et de donner tout l'argent aux pauvres. C'est dans Luc chapitre 18, verset 18 et suite. Hélas, il n'a pas réagi comme Abraham, il n'a pas réagi comme Naaman, même si Naaman au début il avait quelques réticences. La parole dit qu'il était reparti tout triste, mais il avait encore quelque chose qu'il voulait garder. Et pour nous, peut-être que Dieu nous demandera un jour de sacrifier quelque chose. Notre argent, notre temps, nos biens matériels, des fréquentations, nos préjugés, notre orgueil. La Bible dit dans 1 Samuel 2:30 que Dieu honore ceux qui l'honorent. Ça veut dire que nous avons d'abord à faire preuve d'obéissance, à honorer Dieu par notre obéissance. Et lui s'occupera du reste. Il l'a promis, il le fera. Et Naaman a été effectivement récompensé pour son obéissance et sa foi. Alors Naaman descendit dans le Jourdain, s'y trempa cette fois, comme l'homme de Dieu l'avait ordonné. Et sa chair redevient nette, comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Donc Naaman a franchi une étape de plus. Dans la guérison, il a rempli cette troisième condition pour être guéri. Et effectivement, il a été guéri. Mais il manque encore un petit quelque chose pour qu'il mesure complètement la portée de sa purification. C'est la quatrième et la dernière condition, c'est d'accepter la gratuité du salut. Souvenez-vous, avant de venir en Israël, ce qu'on a lu tout à l'heure, au verset 5, le général avait déjà préparé des présents. On parle de 350 kilos d'argent, de 70 kilos d'or. Donc, il avait la conviction que son éventuelle guérison ne pouvait être envisagée que moyennant finance. Bref, il pensait que l'argent pourrait le sauver. Et en signe de reconnaissance, après être guéri, eh bien, il veut remercier Élisée. Il propose de lui offrir donc un cadeau, certainement de l'argent et de l'or. Mais il va se rendre compte que en fait, Dieu ne s'achète pas. Élisée refuse net les cadeaux. Naaman insiste encore. Mais le prophète reste inflexible. Alors il y a trois raisons pour cela. D'abord, il veut se démarquer des soi-disant prophètes ou des faiseurs de prodiges qui étaient nombreux à cette époque et qui avaient coutume de monnayer leurs oracles. Donc des prophètes corrompus, hein. La Bible en parle, de prophètes corrompus, avides de gains. Hein. Dans Jérémie, par exemple, chapitre 6, on parle de ça. Il y avait, ça faisait foison, faux prophètes, des gens qui voulaient caresser, des faux prophètes qui caressaient la population, le peuple dans le sens du poil, mais qui, moyennant de l'argent. Première raison. Et deuxième raison, Élisée, veut montrer que ce n'est pas lui qui a guéri Naaman, mais que c'est Dieu qui a guéri Naaman. Élisée ne veut pas s'approprier la gloire en acceptant de recevoir de l'argent ou de l'or, parce que la gloire revient à Dieu seul. Alors, il est bien entendu légitime de remercier le prophète, et je pense qu'à sa place, on aurait fait pareil. Mais Élisée sait que dans ces circonstances précises, recevoir un cadeau peut être une racine d'orgueil. Ça peut développer quelque chose, la fierté chez Élisée, non. Donc c'est par humilité qu'il décline l'offre et surtout pour donner gloire à Dieu. Enfin, la troisième raison, c'est que Élisée refuse ses présents et Naaman va découvrir par lui-même que la faveur qui lui a été accordée par Dieu est totalement gratuite. Pour Naaman, donc, c'est une exhortation à accepter sa guérison comme une grâce. Et c'est là la chose la plus importante. Parce que le grâce, c'est quoi? C'est le reflet de la miséricorde de Dieu. Un acte absolument gratuit. C'est un cadeau donné à celles et ceux qui ne le méritent pas. Naaman avait toutes les raisons de ne pas mériter sa guérison. Général d'armée d'un pays qui a servi le peuple d'Israël, il est a priori l'archétype du méchant ennemi. Mais Dieu a la liberté de faire grâce à qui il veut. Comment nous situons-nous par rapport à cette grâce? Parfois, on a du mal. On ne mérite rien, mais on gagne ce salut parce que Dieu le veut bien dans sa grâce, dans son amour. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est d'accepter ce cadeau qui est là, le cadeau du salut. Dieu a la liberté de faire grâce à qui il veut. Et pour nous, c'est aussi une exhortation à élargir notre cœur, à accepter le fait que Dieu accorde sa grâce même aux méchants qui se repentent. Et la petite esclave, à cet égard, est remarquable, frères et sœurs. Elle a dépassé les clivages, elle a surmonté ses rancunes afin d'être un instrument d'amour qui a permis à Naaman de prendre le chemin de la guérison et d'accepter la gratuité de son salut. Et dès lors, Naaman a compris. Il a compris qu'il était sauvé, purifié complètement. Il a décidé de servir et d'adorer Dieu au lieu des divinités païennes de son pays. Alors en conclusion, les chrétiens devraient s'inspirer de cette petite esclave. Face à la maladie de Naaman, elle aurait pu se contenter d'une formule laconique, hein, du style que l'Éternel le bénisse. Hein. Mais elle a vraiment à cœur que son maître puisse expérimenter la guérison. Elle est authentique, elle est simple dans sa foi. Elle donne des paroles d'espérance alors qu'elle est dans un contexte difficile, le contexte de l'esclavage. Elle aurait pu, par dédain ou par revanche, penser « c'est bien fait pour lui, tant pis », mais non. Et là, elle véhicule, chers amis, elle véhicule l'image d'un Dieu de compassion qui est prêt à agir au-delà des frontières que les hommes dressent eux-mêmes entre eux. Elle véhicule l'image d'un Dieu qui offre le salut et la guérison à tout être humain, fût-il un bourreau. Ça nous interpelle, n'est-ce pas? Parce qu'on a tendance à mal accepter le fait que les méchants, les meurtriers, puissent aussi bénéficier de la grâce de Dieu. Et pourtant, la Bible nous apprend que Dieu ne veut pas la mort des méchants, au contraire. Il veut aussi que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La parole de Dieu nous le dit dans 1 Timothée chapitre 2, au verset 4. Et même en face de personnes détestables, même dans des contextes difficiles, comme celui de la petite esclave, le devoir du chrétien, c'est d'être un ambassadeur fidèle de Dieu et d'annoncer le salut et l'offre de guérison proposée par Dieu à quiconque, sans distinction. Mais il y a aussi une autre réalité importante à souligner. Comme Naaman, tout être humain est atteint d'une maladie grave qui se répand de manière pernicieuse et le souille au plus profond de son être. Cette maladie, c'est le péché. La Bible compare d'ailleurs souvent le péché à une maladie incurable qui sépare l'homme de Dieu, qui le rend impur et incapable d'être en présence de la gloire de Dieu. Dans Jérémie 17, 9, il est écrit que le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. Et dans Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tout être humain est donc atteint de cette maladie, le péché. Mais on voit dans cette histoire que la guérison de Naaman, finalement, est la conséquence d'un geste simple, En amont, il a fallu se rabaisser un peu quelque part, rabaisser son orgueil, écouter les conseils, être disposé à obéir. Mais après, finalement, c'est un geste simple qu'il a été demandé. Et cette simplicité nous fait penser à la simplicité de l'Évangile. La simplicité du message de l'Évangile au regard du problème de péché. Et c'est quoi ce message ? Premièrement, nous étions séparés de Dieu, condamnés à la mort éternelle à cause de nos péchés. Mais Dieu n'a pas voulu que cette situation reste ainsi. Il aurait pu nous laisser dans notre perdition, dans notre misère, nous laisser mourir, nous laisser vouer à une mort éternelle, à l'enfer. Il n'a pas voulu que la situation reste ainsi. Il est venu visiter notre humanité en s'incarnant en son Fils Jésus-Christ, il y a de cela plus de 2000 ans. Ensuite, il a subi les conséquences de nos péchés en mourant sur la croix. Par amour, donc, il a enduré les souffrances jusqu'à la mort à cause de nos péchés. C'est nous qui devions être punis, mais c'est lui qui a subi la punition à notre place. Tout à l'heure, Jérémie l'a rappelé. Mais il n'est pas resté sur cette croix. Il est ressuscité, il a vaincu la mort et il est vivant éternellement. Et c'est cette résurrection, chers amis, qui nous garantit une nouvelle vie, un nouveau départ, la vie éternelle. Mais cela n'est possible que si nous le recherchons sincèrement. Excusez-moi pour la petite coupure là. Il y a une parole qui dit dans Jérémie chapitre 29 au verset 13 « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si aujourd'hui, quelqu'un se sent sale, quelqu'un se sent souillé par le péché, rongé par la culpabilité, rongé par le remords, la parole de Dieu a une réponse simple. Il ne s'agit pas d'accomplir quelque chose d'extraordinaire, il ne s'agit pas d'observer des cérémonies particulières, des rites particuliers, il ne s'agit pas d'aller en pèlerinage dans un lieu quelconque. Si aujourd'hui quelqu'un désire être purifié de toutes ses fautes, et c'est une question qui se pose à nous ce matin, veux-tu être purifié de toutes tes fautes ? Eh bien, Jésus-Christ nous tend la main. Il demande simplement de mettre de côté son orgueil. Ah, c'est difficile de mettre de côté son orgueil. Je ne suis pas plus mauvais qu'un autre. Non. Mettre son côté son orgueil, c'est dire « Je suis un pécheur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. » Christ nous demande de mettre de côté son orgueil, de placer notre confiance en lui et d'obéir à la parole, tout comme l'a fait Naaman. Mais cette œuvre de salut de Jésus-Christ ne sera effective que pour celles et ceux qui obéissent et qui font ce pas de venir à Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Alors peut-être qu'aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas l'assurance du salut ou qui se sentent sales, qui pensent qu'ils ne méritent pas le salut. Et c'est vrai. Eh bien, Dieu nous invite, tout comme Naaman, à accomplir un geste simple, un geste qui sauve, celui de recevoir le pardon de nos péchés et d'accepter que, dorénavant, Christ dirige notre vie. Vous savez, Naaman, il avait fait preuve d'obéissance, de foi. Il a finalement exécuté cette action si simple de se baigner dans les eaux du Jourdain en mettant de côté sa fierté, en faisant preuve de dépouillement, de brisement à soi-même. Et il a été guéri. Aujourd'hui, en quelque sorte, nous nous trouvons aussi au bord du Jourdain. Et la balle est dans notre camp. Allons-nous rester sur les berges en regardant l'eau ? Ou au contraire, est-ce que nous allons nous jeter à l'eau ? Comme Naaman l'a fait. Dieu invite tous ceux qui n'ont pas encore fait ce pas de foi à le faire sans plus tarder. Aujourd'hui est encore un jour de grâce, un jour de salut. On ne sait pas ce qui va passer demain. Peut-être qu'il sera trop tard. En tout cas, j'aimerais donner l'occasion de vous exprimer en remplissant une petite fiche. Je vais demander à François de vous distribuer une fiche, très simple. Ce n'est pas un piège du tout, vous inquiétez pas. Chacun est libre de la remplir ou de ne pas la remplir. Et voilà, vous pouvez le faire aujourd'hui, tout de suite, après, demain, ou enfin quand vous voulez, mais c'est une fiche qui requiert vos commentaires, mais également requiert une réponse de votre part. Alors j'espère qu'il y en aura assez, j'en ai encore une ici. Et quand vous l'aurez remplie, eh bien, il y a une petite urne derrière, au fond, là, sous le panneau, voilà, qui est là, de couleur marron. Eh bien, mettez cette fiche dans l'urne, ou alors si vous voulez me la donner directement, eh bien, vous pouvez me la donner aussi. C'est quelque chose de tout à fait confidentiel, qui ne sera pas divulgué. Seuls les responsables, et en l'occurrence moi, seront au courant. Mais si vous voulez la remplir, ben, remplissez-la. Voilà, nous allons prier. Seigneur, merci pour cette histoire de Naaman, pour l'exemple de cet homme qui, malgré le fait qu'il était général en chef d'une armée syrienne, la Syrie, qui était un peuple qui a opprimé un autre peuple, le peuple d'Israël, malgré cela, eh bien, il a eu le courage de dépasser son orgueil, de dépasser sa fierté et d'accepter de se baigner sept fois dans le Jourdain et d'être guéri par la suite. Seigneur, que nous puissions nous inspirer vraiment de cet exemple, de cette histoire. Nous, peut-être aujourd'hui, qui nous sentons aussi rongés par le péché, comme Naaman était rongé par la lèpre, nous qui nous sentons sous le poids de la culpabilité ou du remords, nous qui n'avons pas encore franchi ce pas à cause de notre orgueil, peut-être de notre fierté, Seigneur, que tu touches par ton esprit les cœurs aujourd'hui même. Que tu touches, Seigneur, afin que chacun puisse se rendre compte qu'il est perdu sans toi. Mais aussi, Seigneur, pour celles et ceux qui sont déjà à toi, ceux qui marchent, qui cheminent avec toi, mais peut-être qu'ils se sont perdus en cours de route. Seigneur, que nous soyons aussi comme Naaman, obéissants, entendant ton appel à revenir vers toi et se levant pour revenir, pour se repentir, pour s'approcher de toi. Seigneur, touche chacun d'entre nous. Seigneur, qu'aujourd'hui, vraiment, ce soit un jour où tu vas encore sauver beaucoup de personnes, et peut-être aujourd'hui même ici dans cette salle. Seigneur, merci. Merci parce que tu es ce Dieu qui agit, au-delà même de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Gloire te soit rendue, dans le nom de Jésus. Amen.